Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Vous écoutez en rediffusion Le Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
On le présente comme soupe au lait. On décrit ses discours sur la souveraineté comme dangereux. J'accueille en studio le politicien le plus critiqué ces jours-ci en politique québécoise, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour.
Bonjour.
Et je vous ai regardé aller ces derniers temps. Vous avez été très critiqué. Il y avait toute la séquence où vous aviez été émotif à la suite de révélations de menaces sur votre personne, sur votre famille. J'ai envie de vous demander, en commençant, comment ça va?
Ça va bien. Ça va bien. Il y a des aspects de la politique qu'on ne contrôle pas. Puis des fois, il y a des semaines qui portent sur d'autres choses que les politiques publiques.
Oui.
Puis on n'y peut rien. Donc, il faut apprendre à laisser un peu de... C'est lâcher prise d'une certaine manière. Ce que j'ai fait devant une série d'épithètes qui allaient dans toutes les directions, puis rendu à l'étape soupe au lait de mon... On était rendu vendredi, là, puis à tous les jours...
C'est M. Drainville qui vous a traité de soupe au lait.
Rendu à soupe au lait, je me suis dit, ce qui me reste, c'est de mettre du lait dans un bol, puis de faire un peu d'humour, parce que je peux pas non plus, et je pense pas que c'est le rôle d'un élu, de répondre à toutes sortes d'attaques personnelles à tous les jours, parce que pendant ce temps-là, on fait pas son travail, puis... Je suis pas sûr que c'est très éclairant pour la population non plus.
Mais c'est quand même le symptôme de quelque chose, M. Saint-Pierre Plamondon. C'est-à-dire que vous avez monté dans les sondages.
Oui.
Et là, bon, on critique le gouvernement partout, à l'Assemblée nationale, dans la société, dans les médias. Mais vous êtes hors du gouvernement. Vous êtes le politicien le plus critiqué, je pense.
On peut dire ça. Parce que sur la base de la semaine dernière, je pense qu'en effet, j'ai acquis ce titre-là.
Même ces derniers temps, c'est le symbole que ça va bien pour vous.
Aussi. Donc, c'est... En effet, il y a quelque chose de positif là-dedans, mais de mon côté, c'est de s'adapter, puis d'apprendre à lâcher prise. Je pense qu'on peut dire que je suis quelqu'un de... Je prends les choses au premier degré, je prends les choses à cœur.
Ouais.
Et il y a une habituation, parce
que... C'est ça, vous n'êtes pas habitué à la
critique. Je ne suis pas le gars le plus cynique, là. Je ne suis pas le gars qui... Tu sais, j'ai pas le profil de celui qu'on dit que tout coule comme sur un dos d'un canard, là. Pas trop mon profil, j'ai les choses à cœur. Les gens, je pense, apprécient ça de moi. Et oui, donc, je dois m'adapter à une nouvelle réalité politique où, à ma surprise un peu, le gouvernement n'est plus la cible des autres partis d'opposition. Et à ça s'ajoute Ottawa. Il y a comme un autre groupe
même
de partis.
Même à Ottawa, on vous critique.
Exactement.
Mais non, mais regardez. Moi, je vous ai couvert là, quand vous vous êtes présenté au PQ une première fois.
Au tout début.
Vous n'étiez pas le gars qu'on critiquait. Là, vous l'êtes.
Ouais.
Je le dis avec empathie. C'est pas évident les premières fois. Là.
Non, on s'adapte. C'est faisable. Il n'y a pas de... Moi, j'ai beaucoup confiance aussi dans le jugement de la population. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se fait critiquer tout azimut que les gens voient pas clair dans la partie très partisane de la politique. Et c'est cyclique, c'est-à-dire qu'on va revenir à une partie plus intéressante assez rapidement. Hein. Il y a une semaine, c'est orageux, mais c'est comme la météo. La semaine suivante, on peut être sur des sujets très intéressants, très constructifs. Donc, il faut aussi apprendre à passer au prochain appel à travers tout ce bruit-là. Là.
Vous avez promis un référendum. Si vous êtes élu en 2026, les sondages vont bien, mais on sait, il reste beaucoup de temps avant l'élection. Dans la grande famille souverainiste, que ce soit des élus, que ce soit d'anciens élus, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont contacté pour vous dire... Paul, c'est peut-être pas une bonne idée de le promettre comme ça.
Oui. Oui.
Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Mais pas beaucoup.
Okay.
En général, les gens du milieu de l'environnement du Parti québécois sont très contents qu'on puisse dire ce qu'on en pense et assumer un projet de société qui, trop longtemps, a été enfoui. Et qui répond aussi à un changement de ton à l'échelle fédérale, à des événements, tant sur le plan politique, là, l'empiètement dans les champs de compétences, mais également des symboles très forts comme chanter le God Save the King en réponse à un député acadien qui dit, à l'instar de ce qu'on a fait à Québec, qui dit « Moi, je pense qu'on devrait arrêter le serment au roi ». Il y a des éléments comme ça, des moments qui parlent et qui fait qu'il y a beaucoup de satisfaction dans le fait d'assumer qu'on pourrait devenir un pays et que c'est une solution à bien des enjeux actuels. Puis oui, il y en a d'autres qui se disent, ben là, Paul, t'es populaire, est-ce que tu pourrais pas être un peu plus prudent? Oui, c'est ça que tu penses, tu l'as déjà dit, tant mieux pour toi, mais est-ce que un peu plus de prudence serait avisée? Mais en même temps, ce serait me dénaturer, puis je sais pas, je considère pas que je dois m'adapter au sondage. Si je pense pas que c'est ça que je t'appelais à faire. Donc, les sondages vont fluctuer, il y en aura d'autres, ils vont monter, ils vont descendre, ils vont aller dans toutes les directions, mais si je pense que le Québec est appelé à devenir un pays, puis que je suis convaincu que le moment historique nous attend plus vite qu'on pensait, c'est mon devoir de le dire, c'est ma responsabilité, indépendamment de tous les conseils que je peux recevoir dans une semaine.
Ça vous a pas ébranlé?
Non.
Je veux vous entendre sur ce troisième référendum, si vous êtes élu. Vous avez déjà dit que le deuxième référendum a accéléré une sorte de déclin de l'influence du Québec au Canada, que ça a permis au fédéral, on peut être d'accord ou pas, de prendre ses aises, disons. Si on perdait un troisième référendum, est-ce que ce serait pas pire que le statu quo?
Non, parce qu'on n'a pas de statu quo. On recule.
C'est très important de le situer.
Ben, c'est difficile de faire pire, là. Quand on voit un gouvernement fédéral empiéter sur toutes les compétences du Québec au point où le point de presse de Chrystia Freeland sur son budget ne porte, dans la quasi-totalité, là, ça ne porte que sur des champs de compétences du Québec. En toute désinvolture, en tout manque de respect, et si on voit les, il y a encore des nouvelles là, sur la langue française aujourd'hui, on perd un point de pourcentage à chaque année depuis 13 ans sur la langue avec laquelle on approche les gens dans les commerces. On regarde le sort des francophones dans le reste du Canada.
Une enquête de l'Office québécois de la langue française, exact. Je précise.
Mais mon raisonnement, c'est que l'histoire s'accélère et on risque fort de connaître ce que les francophones ont connu dans les autres provinces canadiennes, c'est-à-dire une marginalisation et un déclin. Dans quel cas, marcher vers son destin peut aller à un rendez-vous historique. Moi, je ne crains pas ce moment-là, au contraire, je l'anticipe très positivement, je fais confiance aux gens. Et dans la mesure où il n'y a pas de statu quo, des fois on pense que ne pas bouger, c'est ne pas reculer. Mais malheureusement, des fois, quand on fige sous la peur, on recule rapidement, c'est vrai dans sa vie personnelle. Ne pas prendre de décision, des fois, ça nous fait reculer, on est là-dedans. Et donc, en sachant qu'il y a un déclin qui nous attend dans le Canada, je pense qu'on n'a rien à perdre, puis on doit... cesser d'avoir peur. On doit prendre nos responsabilités, exister et rassembler autour de la différence québécoise. Moi, je pense que des Québécois de toutes les régions, de toutes les idéologies, ont à cœur notre différence. On choisit le Québec parce que c'est francophone, parce que c'est différent, parce qu'on a cette culture, cette mentalité. Et elle mérite d'exister à long terme. Mais pour ça, on aura besoin d'un pays qui le reconnaît et assure notre... autonomie, notre autodétermination.
Le sondeur Jean-Marc Léger était avec nous il y a quelque temps et tout en commentant vos bons chiffres, a souligné quelque chose qu'il souligne depuis longtemps. L'appui à l'indépendance, à l'idée de faire un pays, est autour de 35 %. Ça ne bouge pas. Si vous étiez élu premier ministre du Québec, d'abord, comment vous feriez pour faire décoller l'option en haut des 35 %?
C'est à 36 en ce moment. D'autres sondeurs comme Palace l'a amené à 40. Mais en effet, c'est vrai que ça n'a pas bougé aussi spectaculairement que les appuis au Parti québécois. En même temps, moi, je suis reconnaissant parce que ce que je demande depuis un certain nombre d'années, c'est juste de l'écoute sur pourquoi un gars comme moi, puis d'autres avant moi, en sont venus à la conclusion qu'il fallait devenir un pays. Pour toutes sortes de raisons très fondamentales. Du moment que j'ai l'écoute d'une bonne partie de la population, même de ceux qui ne voteront pas Parti québécois, qui sont prêts à écouter ces raisons-là, c'est déjà un acquis important. Donc, j'ai pas la prétention de faire bouger par magie en très peu de temps les appuis, puis je n'agis pas en fonction de ces sondages-là, j'agis en fonction de ce que je juge nécessaire pour l'avenir du Québec.
Mais il doit y avoir une frustration chez vous. Votre cote de popularité monte, celle de votre parti monte, votre option fondamentale, elle monte pas.
Elle monte timidement, mais ça ne veut pas dire que dans un an, lorsqu'on va se reparler, ça n'aura pas bougé. Donc, il faut faire les choses en fonction de ce qui doit être fait. Papineau disait « Fais ce que doit, advienne que pourra ». C'est encore vrai aujourd'hui. Puis, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais en même temps, je pense qu'il y a une écoute de la population et déjà ça. Moi, je suis reconnaissant, puis je continue à expliquer les raisons de ce projet de société qui est, à mon avis, rassembleur et nécessaire.
La CAQ a perdu son whip, en fait. Le whip est parti, garde son poste de député. Éric Lefebvre va se présenter avec les conservateurs. Est-ce que vous avez une chance de gagner son comté, vous pensez?
Oui. Oui, comme
ça me semble une terre assez conservatrice. C'est,
rappelez-vous, dans Jean Talon, on n'avait jamais gagné Jean Talon de toute notre histoire. On ne partait pas en avance. On a une chance. On a vraiment une chance légitime. Est-ce qu'on est en... Tu sais, il n'y a aucune garantie. Il faut prendre ça très au sérieux. Mais est-ce que c'est faisable de réussir cet exploit-là? Oui, c'est faisable. Et on, comme dans toute chose, on va donner le meilleur de nous-mêmes, se préparer. Et peut-être qu'il y aura d'autres partiels aussi. Hein? Ce n'est pas exclu.
Parce que il y a peut-être d'autres caquistes qui vont démissionner. Voilà. Entendez-vous des bruits?
Ben, c'est qu'un parti comme le Parti québécois, quand on a traversé les moments plus difficiles, il y avait quand même un ancrage très profond, une adhésion au pourquoi du Parti québécois. Le pourquoi de la CAQ me semble très flou. Et donc, c'est pas exclu que d'autres personnes prennent des décisions en fonction de leurs intérêts, de leur cheminement professionnel et non pas de la cause de ce parti-là.
Donc, Éric Lefebvre qui s'en va avec Pierre Poilievre. Je suis curieux d'avoir votre point de vue sur Pierre Poilievre, qui est la star en politique canadienne, domine dans toutes les régions du Canada, sauf le Québec. Pourquoi il pogne, vous pensez?
Il pratique un style de politique qui n'a pas encore percolé ou n'existe pas à proprement dit sur la scène québécoise, qui est vraiment les superlatifs, une forme d'agressivité même pour diviser en deux groupes la population. On l'a vu pour les maires de Québec et de Montréal. On peut être critique d'une mairie, mais des charges vraiment frontales avec un ton qui semble plaire ailleurs dans le Canada. Mais il faut dire aussi que t'sais, quand on regarde un certain nombre d'éditoriaux et de sondages au Canada qui portent le thème de « Canada is broken ».
Le Canada est brisé.
Le Canada est brisé selon plusieurs Canadiens. Historiquement, il n'y avait que le Québec pour dire « Le Canada est brisé, en tout cas en ce qui concerne notre avenir et nos intérêts ». Cette idée-là, maintenant, elle est généralisée. Plusieurs personnes se posent la question « À quoi sert le Canada ?» Et pourquoi je laisserais un gouvernement par-dessus mon gouvernement m'endetter à ce point en échange de presque aucun service? Donc, Pierre Poilievre semble être capable de canaliser une insatisfaction vraiment marquée, pas juste au Québec. Son style, par contre, ne convient pas. Certaines de ses positions aussi sont identiques à celles de Justin Trudeau en termes de respecter l'autonomie du Québec, les lois du Québec. Donc, je pense que le Québec, à nouveau, sera figure d'exception, mais... Dernière chose aussi, c'est que c'est un système à deux parties. Là. Donc, il y a une alternance aussi naturelle parce que clairement, les libéraux de Justin Trudeau sont en fin de parcours. Là.
Merci de votre visite, M. Saint-Pierre-Plamondon.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne journée. C'était Paul Saint-Pierre-Plamondon, le chef du Parti québécois.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vous écoutez en rediffusion Le Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
On va se faire deux blocs de politique québécoise. Dans quelques minutes, on va parler avec notre ami Louis Lacroix à Québec. Ça brasse notamment pour Éric Lefebvre, le député qui était avec la CAQ, qui était le whip responsable de la discipline pour la CAQ. C'est un poste important. Et il est sorti du caucus, siège maintenant comme indépendant, parce qu'il va se présenter avec Pierre Poilievre au fédéral. Et tout ça lui vaut beaucoup, beaucoup de tomates. Donc, on va parler de ça avec Louis dans quelques minutes. Philippe J. Fournier est là. Il est le rédacteur en chef de Québec 125 et aussi chroniqueur pour l'actualité. Deux sondages qui sont tombés aujourd'hui sur les intentions de vote au Québec. Salut Philippe.
Bonjour Patrick.
Donc pendant qu'on parlait, pendant la pause, tu m'as dit, il y a un sondage de Léger qui va sortir. Il est sorti.
Il est sorti.
Je vais te demander d'abord de décortiquer le sondage Palace qui montre que les libéraux, d'une façon surprenante, seraient en hausse.
33 % pour le Parti québécois. Et là, soudainement, on voit 23 % pour le Parti libéral. On fait un saut. On n'a pas vu ça depuis des lunes. J'ai regardé la liste, Patrick, et c'était le meilleur sondage pour les libéraux au Québec depuis novembre 2020. Donc, ça fait longtemps. Sauf que en regardant les tableaux, j'ai tout de suite vu il y avait un piège, une illusion optique là-dedans. C'est que les chiffres de Palace chez les non-francophones indiquent que les libéraux ont grimpé de façon radicale dans les derniers deux mois. Et donc, l'hypothèse que j'avais par rapport à ça, c'est bon, le discours référendaire là, depuis des semaines, M. Plamondon qui dit que c'est une certitude avant la fin de la décennie qu'il va avoir un troisième référendum. Je dis, bon, ben, les fédéralistes, les anglophones, les allophones
se rallient,
n'est-ce pas? Mais là, on voit que Léger ne voit pas ce mouvement-là.
Parce que je vais préciser, là, OK? Chez Léger, attends. Chez Léger, Parti québécois, on est à 34 %. Ça, oui. C'est dans les normes des sondages récents, là. La CAQ serait à 24 au deuxième rang, exact. 24 %. Le PLQ, toujours autour de 15 % selon,
c'est
ça.
À son plancher.
Ça, c'est synchro avec tous les sondages qu'on voit depuis quelques temps.
Exact.
Mais ça, c'est en opposition, disons, avec le sondage Palace dont tu parles.
C'est intéressant parce que lorsqu'on regarde les chiffres chez les francophones, ils sont presque identiques. C'est vraiment, encore une fois, l'échantillon de non-francophones. Alors, il va falloir vérifier. Je veux dire, évidemment, la firme Léger est très bien établie. Je ne doute pas des chiffres de Léger. Peut-être qu'il y a eu...
Des fois, il y a des échantillonnages différents.
Absolument. Ouais, ouais. Mais les chiffres des francophones sont quasiment identiques. Le Parti libéral, chez Palace, sont à 10 % et chez Léger, sont à 6 %. Alors, il n'y a pas vraiment de nouveaux sièges au PLQ, même si les chiffres, à première vue, semblent bons chez Palace.
Chez les péquistes, est-ce qu'on peut déboucher le champagne?
Ben c'est sûr qu'il est tôt. Les élections sont dans 2 ans et quelques mois. Mais on peut dire que la montée que nous avons vue d'abord à l'automne et ensuite qu'on a vu se poursuivre en janvier, février, ben ça a continué. Et donc, François Legault et la CAQ, malgré les promesses, malgré le budget, malgré d'avoir réglé la situation avec les syndicats du secteur public, ça n'a pas amélioré les choses. Donc, selon Palace, à 20 % pour la CAQ, selon Léger, à 24, on imagine que c'est quelque part entre les deux. Ce n'est pas un très bon score pour la CAQ. Et le PQ serait majoritaire avec de tels chiffres.
Je suis toujours étonné de voir que dans la région de Québec, le Parti québécois a de très bons scores. Ça a été la disette dans la région de la capitale nationale. Et là, ils sont premiers à 38 % selon le sondage Palace. Comment on explique ça?
Ça fait environ un an qu'on a vu les chiffres chavirer à Québec. C'était en avril dernier, en fait, là, après la saga du troisième lien. Et là, je dis la première saga du troisième lien, bien sûr, qu'on a vu la CAQ prendre un coup. Et la CAQ ne s'est jamais rétablie à Québec depuis. Et je me rappelle du sondage juste après l'annonce des Kings, qui était en novembre. La CAQ était à moins de 20 % dans la région de Québec. Et même les gens à la CAQ m'ont dit, on a perdu 25 points à Québec. Et ces électeurs-là se cherchent une avenue, un nouveau parti. Et pour l'instant, c'est vraiment le Parti québécois qui en profite. Et on voit, Éric Duhaime n'est pas loin à Québec. Éric Duhaime, plusieurs personnes avaient dit, après l'élection, il n'a pas gagné de siège. Ah, ça va s'effondrer, la pandémie achève. Et on voit qu'à Québec, ça se maintient pour le Parti conservateur du Québec.
Je parlais avec Philippe Quentin il y a quelques semaines. Puis on essayait de faire l'autopsie. Là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la CAQ devienne si impopulaire? Toi, tu mentionnes le troisième lien. Oui. Est-ce que l'augmentation de salaire de 30 % que les caquistes ont décrété, est-ce que ça les a plombés?
Ça n'a pas aidé, ça c'est certain, surtout dans une année où il y avait d'énormes négociations avec le secteur public. Donc, on se donne un 30 %, mais avec les professeurs, la première offre était 9 % sur 5 ans, ça bat même pas l'inflation. Et donc, c'est sûr que ça n'a pas aidé, mais bien sûr, je fais attention avec le cause à effet. La CAQ a tellement gaffé souvent en 2023 que c'est difficile de lier une gaffe à une chute dans les sondages. Si on regarde la progression, si vous allez sur mon site pour voir le graphique, vous voyez tout au long de 2023, la CAQ descend, et ce n'est pas encore rétabli.
OK, si on avait des élections demain matin, en vertu de ce sondage Palace, puis on se comprend, Philippe, là, c'est un Polaroid, on est à 2 ans des élections, on fait de la politique fiction, mais ça donne une idée des performances des partis. Québec solidaire serait où?
Québec solidaire, dans les 2 sondages publiés aujourd'hui, perd 4 points par rapport au sondage précédent de chacune des firmes. Et dans le sondage Palace, on posait la question « Pour qui avez-vous voté en 2022? » Et on voit que 30 % de ceux qui avaient voté QS sont maintenant au Parti québécois. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et donc, considérant que le PLQ semble se maintenir à Montréal, que bon, QS a perdu du terrain face au PQ, QS aurait de la misère à garder tous ses sièges présentement. Il n'y aurait pas vraiment de gain, sauf peut-être, bien sûr, en Abitibi, reste à voir.
Même à Montréal, le Québec solidaire aurait de la difficulté?
Ça serait difficile de voir faire des gains, par exemple. Okay. Est-ce qu'il pourrait garder Verdun avec l'Île des Sœurs, qu'ils ont gagné par 400 sièges, je crois que c'était, il y a 2 ans? Ça serait difficile. Les sièges qu'ils ont déjà devraient être sûrs, mais je parle de gains. Je ne vois pas pour l'instant de gros gains à Montréal.
OK, Parti conservateur du Québec. Tu le disais, Philippe Fournier, ils sont populaires dans la région de Québec. Ils sont encore vus comme une alternative, mais ils sont à l'échelle du Québec. Selon le récent sondage Parlis, ils sont à 11%. C'est un peu plus. Je pense que c'est à peu près la même affaire là, avec le Léger.
Exact, c'est 10% chez Léger. Le Parti conservateur se rendrait très bonne position pour gagner les 2 sièges de la Beauce. Serait compétitif dans le reste de Chaudière-Appalaches. On regarde peut-être Lobinière-Frontenac. Et je regarderais des sièges dans la couronne extérieure de Québec, les Chauveaux. Et donc, ça reste à voir. Mais avec la CAQ qui perd 25 points à Québec, le Parti québécois qui a repris une partie de ça, le Parti conservateur pourrait faire des gains à Québec.
OK. Monsieur Legault, est-ce qu'il peut regarder le passé puis voir des gouvernements qui étaient hyper impopulaires, un peu comme le sien, et qui ont quand même fini par gagner l'élection suivante?
Le seul précédent que nous avons au Québec de tout ça, dans le Québec moderne, c'est Jean Charest en 2007. Peut-être que tu te souviens, Jean Charest, en 2007, la montée de l'ADQ, il n'avait pas des bons sondages. On voyait des 20-22% et finalement, il a terminé, je crois que c'était 31 ou 32% lors de l'élection en 2007. Il était minoritaire. Il a remonté la pente, mais est-ce que vous aimiez ou non Jean Charest, il était un très bon campaigner. Ce que M. Legault, je pense, n'a pas prouvé lors en 2018 ou en 2022. Les campagnes n'étaient pas aussi solides. Alors, il y a des précédents, mais ils sont minces.
Charest, dans le premier mandat, là, vers la fin du premier mandat, était aussi impopulaire que Legault maintenant?
Faudrait que je retourne les chiffres, là. Tu me surprends un peu avec ça.
Mais on est dans les mêmes eaux.
Oui, absolument, on est dans les mêmes eaux. L'ADQ était en hausse. L'ADQ allait fermer le gouvernement en 2007.
Oui, je me souviens. Ça a failli. Et, anyway. Mais ce que je voulais savoir, c'est généralement, quand t'es bas comme ça, tu vas te faire battre aux élections.
Généralement. Surtout dans un deuxième mandat. Les libéraux de Justin Trudeau espèrent encore que ça remonte, mais là, ça va faire un an qu'ils tirent de l'arrière par 10, 12, 15, 20 points. Et avec l'élection l'année prochaine, il faudrait vraiment croire au miracle pour voir que les libéraux peuvent se l'emporter. Donc oui, en effet, quand on perd du terrain dans un deuxième mandat, souvent ça achève.
OK, je comprends les échantillonnages qui peuvent être différents, Philippe, là, mais on a 2 sondages, le Palace et le sondage Léger qui vient d'être présenté. Là, on dit les détails dans le Journal de Montréal demain. C'est pas radicalement différent, mais il y a quand même des différences. On dit dans le Léger, M. Legault freine sa glissade. Dans le sondage Parlis, M. Legault est 3e.
Exact.
Il n'y a pas comme un danger de perception pour l'industrie du sondage quand tu as des résultats. Je veux pas dire radicalement différents, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a quand même 2 sondages qui sortent simultanément sur le même objet, la politique québécoise. Ça dit pas la même chose.
Je comprends ce sentiment-là et je ne suis pas sondeur. Je veux dire, moi, je critique généralement les sondages. Je décortique et je critique les sondages. Alors, j'ai déjà critiqué sévèrement certaines firmes de sondage. Mais dans ce cas-ci, surtout quand je dis, encore une fois, je regarde les électeurs francophones, les 2 sondages disent pas même la même chose. C'est juste que 70% des non-francophones dans le Palace appuient les libéraux. Alors que là, j'ai pas vu les détails de Léger, mais je peux supposer que c'est autour de 45. Et bon, un 35 points de différence ou un 25 points de différence dans une population qui est 22% du Québec, ça fait ça, 6-7 points de différence.
On va te laisser aller décortiquer les chiffres qui viennent de sortir du sondage de Léger. Philippe J. Fournier de Québec 125, chroniqueur à l'actualité. Merci, c'est toujours un plaisir.
Merci beaucoup, Patrick.
Vous écoutez en rediffusion Le Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
L'Outaouais, c'est une région qui a souvent estimé avoir été négligée par les gouvernements, ne serait-ce que, disons, par le lien routier. Pendant des années, il n'y avait pas d'autoroute directe entre Montréal et l'Outaouais. C'était une des seules régions qui déplorait ça. D'ailleurs, on a construit l'autoroute 50, mais c'est un peu le symbole, disons, du peu de poids politique de l'Outaouais. Pourquoi? C'est une autoroute un peu bric-à-brac, qui est souvent une route provinciale et qui est surnommée l'autoroute de la mort. Ça, c'est un exemple. Après ça, les soins médicaux, les ressources pour avoir des médecins, pour avoir toutes sortes de matériel médical, ça fait des années que c'est dénoncé. En 2016, il y a un coroner qui disait que l'urgence de l'hôpital de Gatineau était une des pires du monde occidental. Là, il y a eu une sortie de médecins de la région de l'Outaouais qui implore Christian Dubé d'agir. Avant de passer à mon prochain invité, on va écouter Christal Dionne. Elle était en entrevue avec nos collègues de l'Outaouais. Elle est la chef des urgences de l'hôpital de Hull. Vous allez entendre cette entrevue, un extrait de l'entrevue.
C'est très grave. Notre situation en ce moment, ce qui nous inquiète le plus, c'est la possibilité d'un bris en imagerie médicale.
C'est possible d'opérer un centre de trauma sans imagerie médicale en 2024?
Impossible. C'est impossible, c'est même dangereux. Puis je sais que peut-être que ça sonne alarmiste, mais c'est la vérité. Puis je suis vraiment inquiète pour la sécurité et la santé de la population de l'Outaouais.
Donc, c'était Christal Dionne, chef des urgences de l'hôpital de Hull, en entrevue avec Frédéric Bisson sur notre antenne de l'Outaouais. Docteur Peter Bonneville est urgentologue et président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIS de l'Outaouais. Docteur Bonneville, bonjour.
Bonjour à vous et merci de m'avoir à votre émission.
Plaisir. Vous avez fait une sortie avec d'autres collègues. Qu'est-ce que vous demandez au ministre Dubé?
Ben écoutez, la problématique de longue date pour l'Outaouais, c'est qu'on a des problèmes de main-d'œuvre du fait de notre proximité avec la région de l'Ontario. Et ce qu'on demande au ministre Dubé, c'est rien de moins que d'avoir de la parité salariale avec les personnes qui travaillent dans les soins de santé entre le Québec et l'Ontario, afin qu'on puisse nous, en Outaouais, travailler et faire du travail qui est un travail de qualité.
Donnez-nous un exemple de disparité salariale si on compare Gatineau, l'Outaouais avec Ottawa et l'Est-Ontarien.
Donc, ce qui nous amène de façon pointue dans les médias, c'est le fait qu'on a trois technologues de l'hôpital de Hull qui vont quitter bientôt. Ces trois technologues-là partent pour aller travailler à l'hôpital Montfort et on va leur donner 30 000 $ de plus par année pour pouvoir travailler là-bas et dans en passant des bien meilleures conditions que du côté du Québec.
OK, ça c'est un exemple. Est-ce que vous en avez d'autres? Parce que là, on parle de trois personnes, mais on parle vraiment d'un exode qui est décrit là, comme étant important.
Mais je vais vous donner un autre exemple. On a des technologues qui sont partis travailler pour la fonction publique à Ottawa. Fait que non seulement on perd de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les hôpitaux, mais on perd aussi de la main-d'œuvre pour aller travailler à la fonction publique. Je peux vous assurer qu'au niveau de la rémunération de tout technicien, technicienne de laboratoire, infirmière, au niveau de la disparité du salaire, c'est dans les mêmes eaux.
Il est aussi question de matériel qui est défectueux là, dans plusieurs points de service des hôpitaux, notamment là, en Outaouais. Donnez-nous quelques exemples.
Mais moi, je vous dirais que à ce stade ici, là, ce n'est absolument pas la raison pourquoi nous, on demande au ministère là, de faire quelque chose. Ça, des appareils qui sont défectueux, je pense que c'est une réalité pour toute région. Notre réalité à nous, c'est vraiment le problème de notre de proximité avec l'Ontario et du fait qu'on perd. C'est une hémorragie de main-d'œuvre vers l'Ontario.
Là, ce que vous demandez, c'est que en raison de la proximité de l'Ontario, il y ait comme un traitement spécial pour les travailleurs de la santé de l'Outaouais.
Non. Je pense que le message est mal compris ici. On ne veut pas un traitement spécial pour les travailleurs de santé. Ce qu'on veut, c'est que la population de l'Outaouais puisse avoir les soins qu'elle mérite, qu'elle ait la même qualité de soins que partout ailleurs dans la province, qu'elle n'a pas en ce moment, dû au fait qu'on n'a pas assez de personnel pour pouvoir les traiter. Et là, à court terme, on va vraiment mettre la vie des gens en danger avec le départ de ces trois technologues-là. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg. Dans tous les autres services, on a des problèmes. En ce moment, on est en train de travailler des plans de contingence pour pouvoir s'assurer de garder la salle d'opération de Gatineau ouverte cet été. Là, on parle d'un endroit où habituellement on a 7 salles d'opération et là, on a des plans de contingence pour juste essayer de sauver les meubles et faire en sorte là, qu'on va avoir juste assez d'infirmières pour pouvoir faire des césariennes d'urgence pendant l'été. Et là, ça veut dire qu'on ne pourra plus faire les chirurgies pour des cancers. On ne pourra pas faire aucune chirurgie élective cet été. Ça, c'est scandaleux. C'est inacceptable. Il n'y a aucune autre région au Québec qui accepterait ça.
Ben, écoutez, ce que vous me dites là, ça passe par un traitement spécial. Ça passe par regarder les salaires de métiers équivalents en Ontario, puis donner ce traitement spécial aux gens qui travaillent en Outaouais. Qu'on appelle ça comme on veut, ça demeure un traitement spécial. Puis je vous dis pas que c'est pas justifié, là.
Mais moi, je vais vous citer que il y a à peu près un mois, l'Observatoire de développement de l'Outaouais a publié un document, et ce document-là indique que malgré un rattrapage, l'Outaouais est en déficit de 180 millions de dollars par année pour avoir le même montant par capita pour la santé des gens en Outaouais. Ça, là, si vous faites le calcul, depuis que la CAQ est au pouvoir, ça veut dire que c'est 1 milliard de dollars que la CAQ a sauvé sur le dos de la santé du monde en Outaouais. Alors, appelez ça un traitement spécial, si vous voulez. Mais nous, on a un organisme indépendant qui dit, hey, le gouvernement du Québec, là, vous ne mettez pas autant d'argent en Outaouais qu'ailleurs dans la province.
Docteur Bonneville, quand je parle de traitement spécial, c'est quand on prend les travailleurs d'une région puis qu'on leur donne le salaire équivalent à ceux d'une province, c'est un traitement spécial.
Ben écoutez, moi je vais pas m'enfarger dans des mots. Moi, le point de ma sortie, c'est que j'implore le ministre Dubé de s'assurer qu'en Outaouais, on puisse donner des soins de la même qualité que partout ailleurs dans la province. Il trouvera le moyen qu'il trouvera. Moi, je fais ma job. Lui, il fait la sienne, mais la sienne, je pense vraiment, c'est de s'assurer que tous les Québécois aient le même réseau de santé et qu'il n'y ait pas une région où on met la vie des gens en danger.
Pourquoi vous pensez que l'Outaouais est maltraité comme ça? C'est pas la première fois là, que c'est soulevé. C'est comme si c'était une région qui était peut-être négligée par le pouvoir central. Et je pense que c'est le cas, qu'importe la couleur du parti politique à Québec.
Ben, moi, je vais vous dire qu'il y a presque 5 ans maintenant, en Assemblée nationale, on a voté une motion unanimement de dire que l'Outaouais avait un statut particulier. Ça, c'est venu avec ADAP 0$, mais je vous ferai mention qu'il y a quelques semaines de cela, on avait annoncé 245 millions pour le réseau routier en Outaouais et entre autres de dire qu'on va avoir un réseau routier qui va être beaucoup plus sécuritaire. Et moi, j'ai applaudi cette annonce-là parce que ça va être pratique d'avoir un réseau routier plus sécuritaire parce qu'on n'aura plus de centre de traumatologie qui va pouvoir s'occuper des accidents de la route. Alors, moins on a d'accidents de route, on va avoir moins de patients qui vont décéder. C'est un peu ironique, l'histoire-là.
Est-ce que vous avez eu une réponse du ministre Dubé, Dr. Bonneville?
Ben, moi, je n'ai eu aucune réponse personnellement. Au mieux, on a des personnes du ministère qui nous parlent. Mais je veux dire, le ministère de la Santé, là, moi, je compare ça à un oignon. Hein. Monsieur Dubé, il est au centre de l'oignon, là, puis là, vous vous attaquez la première pleure. Puis il y a du monde là qui sont là pour vous dire non, vous broyez trop en Outaouais, vous sonnez l'alarme pour rien. Là, finalement, ah ouais, peut-être. Là, tu arrives à la deuxième pleure et la troisième pleure. Là, arriver à la dernière pleure, là, c'est difficile. On sait que M. Dubé a été interpellé. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir le débat qui a eu lieu cet après-midi, où est-ce que M. Fortin l'a interpellé. Et M. Dubé, ben, je suis content. Il a quand même avoué que oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes en Outaouais. Et puis, vous savez, c'est vrai que c'est dur, la compétition avec Ontario. Moi et Mme Lebel, on travaille là-dessus. Mais ça serait peut-être le fun qu'il travaille un petit peu plus fort pour nous.
Merci d'avoir été avec nous, Dr. Bonneville. Bonne soirée.
Merci à vous.
Peter Bonneville, qui est urgentologue et président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIS de l'Outaouais.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vous écoutez en rediffusion
Le Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Il y a un regroupement qui s'appelle l'Association québécoise des productions médiatiques. Ça regroupe des boîtes de production. Donc, quand vous regardez une émission, par exemple, comme, je pense, à En direct de l'univers, ben la boîte de production qui produit ça, c'est Pamplemousse, la boîte de France Beaudoin. Il y a un écosystème très vivant au Québec, de boîtes de production comme ça, qui alimentent les Radio-Canada, les Nouveaux, TVA, etc., et même aussi, de nos jours, Netflix et d'autres plateformes comme ça. Aujourd'hui, ces gens-là sont en congrès et on leur a présenté un sondage sur les plateformes les plus populaires et il y a eu une grosse surprise, c'est-à-dire que YouTube est une des plateformes les plus populaires, arrive deuxième dans tous les groupes d'âge. On en parle avec Luc Dupont, qui est professeur de communication à l'Université d'Ottawa, spécialisé en publicité et marketing. Salut Luc!
Bonjour Patrick.
Pourquoi c'est une surprise?
Ben, c'est une surprise parce qu'évidemment tous les yeux sont tournés vers Netflix, Apple TV, Amazon Prime également. Et là, soudainement, on vient de réaliser qu'au fond, le bébé, la menace, ben, c'est une plateforme qui, elle, existe depuis très longtemps, avec laquelle on est plutôt familière, qui est dans la grande famille Google, je le précise. D'ailleurs, Google qui est l'engin de recherche le plus important sur la planète Terre. J'entends parfois des gens me parler de Bing, mais je rappelle que sur Bing, la recherche numéro un, c'est Google.
Sérieusement? Je ne savais pas.
Et la recherche numéro deux, c'est YouTube. Donc, c'est deux propriétés en compétition, évidemment, avec Microsoft, donc Bing, Microsoft, bien sûr. Et dans le cas de YouTube, ben, c'est un outil qui, à bien des égards aussi, est différent de Netflix. C'est-à-dire que Netflix, ben, c'est des contenus, c'est pas des contenus que Joe Populo ou que le commun des mortels a conçu ou a préparé ou a monté. Alors que dans le cas de YouTube, ben, t'as au-delà des contenus de reconnus de médias, ben, t'as aussi les gens ordinaires, les utilisateurs. Donc, il y a une nuance qui est importante ici. Puis, l'autre nuance, je te l'annonce en mille, et moi, je soupçonne que si tu cherches le grand joueur du futur, c'est pour ça que l'étude, je la trouve extrêmement intéressante aujourd'hui, c'est en réalité YouTube. Puis, je vais te dire pourquoi. C'est que je crois qu'à terme, ce qu'on appelle l'industrie du câble, puis aujourd'hui, c'est ce qui maintient en vie plein de gens qui nous écoutent actuellement d'ailleurs. Le problème, c'est que ton câble, ça va être YouTube. Je te donne un exemple concret, Patrick.
Le câble, ça va être
Bloomberg.
YouTube.
Bloomberg, exemple, qui est une station d'information financière. Ben, tu peux t'abonner au câble, mais YouTube l'offre également. Et donc, ce que je soupçonne, c'est qu'éventuellement, YouTube va devenir tellement important que c'est par là que va passer l'ensemble des contenus, incluant les contenus québécois.
Est-ce qu'on a fait... je sais que Netflix est à la tête là, des plateformes les plus écoutées au Québec là, dans ce sondage-là, Luc, mais est-ce qu'on a départagé quel contenu de YouTube est vraiment écouté? Je te dis ça parce que, bon, YouTube, oui, il y a de la fiction, oui, il y a de l'info, mais il y a beaucoup de contenu, tu le disais, autogénéré par les gens. Il n'y a pas ça sur Netflix, il n'y a pas ça sur Crave, il n'y a pas ça sur Amazon. Est-ce qu'on compare des pommes et des oranges?
Je pense qu'on compare. En fait, deux produits, effectivement, pas tout à fait identiques. Le modèle d'affaires n'est certainement pas le même. Mais encore une fois, si tu veux comparer avec des plateformes québécoises, mettons que tu cherches quelque chose, un contenu visuel quelconque, vidéo. Ça m'arrive parfois de donner des entrevues dans les médias, puis je veux les retrouver après sur les plateformes officielles. Si je te disais que très souvent, je les trouve pas. Mais c'est mes contenus à moi. Je les cherche évidemment de façon très attentive, t'auras compris. Donc, la grande force de YouTube à cet égard-là, c'est que l'outil est extrêmement bien fait. Il est tellement bien fait, d'ailleurs, que j'ai souvenir de joueurs québécois qui essayaient de quantifier sur le plan de des engins de recherche ce qui était le plus important. Quand un Québécois cherche quelque chose, en d'autres mots, il va où, là? Tu veux un conseil vidéo, tu veux une recommandation, recherche sur un produit, une destination voyage. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est Google, évidemment, qui est un outil de recherche. Numéro un, ben c'est le premier, mais si je te disais que YouTube, c'est devenu l'outil numéro deux, puis là, s'il y a un puriste qui nous écoute, ils vont me dire « c'est pas un engin de recherche, YouTube ». Non,
ça l'est un
mais
peu.
Il est utilisé comme ça, donc c'en est un.
Luc, qu'est-ce que ça signifie que YouTube fasse une montée en puissance comme ça, soit deuxième plateforme la plus populaire chez les Québécois de tous âges? Qu'est-ce que ça signifie pour nos émissions de télé?
Très important parce que quand tu commences à gratter, puis là, on va garder ça simple, mais tu t'aperçois que plus les gens sont jeunes, plus ils passent de temps sur cette plateforme-là. Et dans le domaine du marketing, évidemment, c'est les jeunes qui font les tendances. Donc, ce qu'on sait, c'est que tout ce qui se passe de ce côté-là, éventuellement, va se passer dans l'ensemble du marché. De la même manière que ce qu'on se raconte aujourd'hui, là, c'est une nouvelle d'à peu près 2018 ou 2019, sans vouloir être méchant, là, mais aux États-Unis. Donc, vois-tu le délai que ça a pris? Ouais. Puis quand tu commences à regarder les revenus de Netflix annuel, l'an passé, c'est 33 milliards. YouTube, c'est 31,5 milliards. Donc, on n'est pas très, très loin sur ce plan-là. Puis sur le plan du temps passé aussi, là, Netflix est encore premier, mais YouTube n'est pas très, très loin derrière.
Luc, est-ce que c'est pas la nature du divertissement qui est en train de changer? Puis je m'explique. On parlait là récemment avec Jean-Philippe Barry-Guerrard ici de TikTok, qui est pas très utilisé par les vieux comme moi, peut-être comme toi, mais qui est extrêmement populaire chez les plus jeunes, et c'est entièrement ou presque du contenu autogénéré. Et quand tu regardes les heures d'écoute chez les jeunes, TikTok est extrêmement populaire. Là, on parle de YouTube, beaucoup de contenu autogénéré. Tu sais, l'époque où les documentaires dominaient, la fiction dominait, les films dominaient, es-tu en train de finir au profit de clips de 1 minute 30 secondes générés par des utilisateurs de plateformes?
Ben, si on regarde encore une fois chez les plus jeunes, le type de contenu qui connaît une certaine croissance, en fait, pour ne pas dire une croissance certaine, ce sont effectivement des contenus qui sont de plus en plus courts. Donc, j'utiliserais la télésérie, là, à défaut d'une meilleure expression. Mais dans le temps, à notre époque, à nous, ça pouvait durer, mettons, 50 quelques minutes, parce qu'il fallait la pub aussi, il faut pas l'oublier. Puis en fonction du marché, c'est un petit peu plus court, un petit peu plus long. Mais ce qu'on s'aperçoit actuellement, c'est que certains de ces contenus-là enchaînent, entre autres, pour reprendre l'exemple chinois, parce qu'il est très intéressant aussi, ils sont de plus en plus courts. Alors, tu as les premières téléséries de 15 minutes, à ne pas confondre avec la web télé ici. Alors oui, effectivement, il y a des choses comme ça qui s'en viennent, d'autant plus que je m'en fargeais à un moment donné sur des recherches, moi, qui me renversent complètement. Les jeunes disent que quand le contenu dure un peu trop longtemps, puis là, comprendre un peu trop longtemps, 45 secondes, ils commencent à trouver ça stressant. Donc
Après 45 secondes.
Oui, et 45 secondes, on va s'entendre pour dire qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire là. Mais force aussi est de constater que quand on jette un coup d'œil sur TikTok, il y a des contenus de bonne qualité aussi, de la même manière que sur YouTube, il y a des experts, je ne sais pas moi dans le domaine de l'aviation, mais il y a quelqu'un que je suis, que je trouve fascinant, qui va t'expliquer pourquoi tel type d'avion fonctionnera pas. Et pourtant, sur le plan, je sais pas, moi, marketing, ça fait plein de sens. Donc, il y a des contenus de grande qualité aussi. En même temps, il y a en parallèle plein de contenus beaucoup moins bons, mais reconnaissons que l'algorithme de YouTube, pour prendre un exemple concret, moi, mon téléviseur est branché sur Internet. Alors ça, c'est aussi, en réalité, toute la conversation qu'on a depuis tantôt, Patrick, c'est le téléviseur intelligent. La minute où tu prends le fil puis tu le branches, mettons, symboliquement sur ton téléviseur, tu viens de changer complètement ton accès au divertissement. Alors oui, ça a un impact extraordinaire sur les contenus québécois. Évidemment, d'autant plus que, reconnaissons que sur le plan stratégique, souvent ces contenus-là ne sont pas distribués sur YouTube. Ils sont pas placés là. Encore, parce qu'on fonctionne avec la vieille approche qui consiste à dire faut que je le garde juste pour moi, puis juste sur ma plateforme, puis sinon, ben ils ne verront pas. Ça tiendra pas la route.
Luc, je recule la cassette de 2 minutes environ. Oui. On te dit que le temps d'attention des jeunes, là, de certains jeunes, selon certaines études, 45 secondes. Puis moi aussi, j'ai déjà lu ça, puis disons que ça baisse d'année en année, de décennie en décennie. Toi, t'es prof à l'Université d'Ottawa. T'en as des jeunes de 18, 19 ans, 20 ans qui arrivent, qui sont dans ta classe. Ça fait des années que t'es là devant eux. Est-ce que tu sens que tu ne peux pas concurrencer, disons, le contenu intéressant qu'ils ont sur l'ordinateur en même temps ou sur leur téléphone en même temps qu'ils suivent ton cours?
Oui, bien, on a de la compétition, effectivement. Moi, je pense maintenant, parce qu'à une autre époque, quand j'ai commencé, les cours duraient 3 heures. Moi, je crois personnellement, là, mais on n'est pas beaucoup là, à le penser, mais moi, je pense que ce n'est plus possible de faire ça. Je pense que quand les étudiants t'ont donné 90 minutes, c'est ça qu'ils sont capables de te donner actuellement, malheureusement. Et sur le plan de la mémorisation aussi du savoir, remarque que les études ont montré que c'est pas vrai que tu vas être 3 heures de temps très, très, très attentif. D'ailleurs, une critique que j'entends souvent de très grands films, Oppenheimer, pour prendre un exemple concret, Blade Runner, le deuxième, pour prendre un exemple concret, c'est pas qu'il était pas bon, c'est qu'il était trop long.
Ben c'est vrai qu'il y a beaucoup de films primés aux Oscars qui sont longs, mais ça, c'est un débat qui est vieux comme le cinéma, semble-t-il. Mais je reviens à ça. Puis je sais qu'on est parti de YouTube, l'impact sur la télé, etc., pour parler de ce qui se passe dans ta classe à l'université. Mais je pense que c'est un peu lié.
Ah oui, absolument, totalement.
Est-ce que tu permets qu'ils aient le téléphone dans ta classe?
Ben, ils ont le téléphone, mais évidemment que je veux pas qu'ils utilisent le téléphone de la même manière qu'ils ont leur ordinateur portable. Mais évidemment que je veux qu'il soit attentif. Remarque là-dessus que sur le plan pédagogique, je ferai une critique à plusieurs collègues, il y a des collègues qui vont distribuer le PowerPoint du cours à l'avance. Mais après ça, surtout, prends-toi pas que les étudiants soient pas attentifs. Ils l'ont déjà lu. Tu vois-tu un peu l'idée? Alors, il y a aussi une part de magie là-dedans. Il faut la conserver. Et puis, à travers une carrière, puis là, c'est drôle, je racontais à ton recherchiste tout juste qu'on entre en nombre, je sais que ça compte pas, mais que ça faisait 32 ans que j'enseigne. Puis évidemment que les premières années, quand je prenais une pause au milieu du cours, j'ai souvenir que c'était une pause cigarette. Et c'est comme ça qu'elle s'appelait. Je ne blague pas. Mais aujourd'hui, c'est une pause Internet. Parce qu'ils ont tous quelque chose de très, très important à faire sur leur téléphone intelligent.
Peut-être que la solution, Luc Dupont, ça va être que tu fasses ton cours en petites tranches sur TikTok. Peut-être que tu aurais peut-être plus d'écoute.
Ben, remarque, l'autre défi, c'est l'intelligence artificielle qui va complètement révolutionner le domaine de l'éducation et du cinéma aussi. Tu as peut-être vu aujourd'hui la bande-annonce qui traîne sur James Bond, oui, sur X. Et évidemment, c'est une bande-annonce complètement bidon, créée de toutes pièces. Mais sais-tu quoi? J'ai regardé ça attentivement, ça fait le travail. Ça a coûté, somme toute, l'intelligence artificielle qui est impliquée dedans.
C'est bluffant, comme disent les Français. Merci, Luc. Toujours un plaisir.
Un plaisir.
C'était Luc Dupont de l'Université d'Ottawa. Je me suis mêlé dans mes pinceaux quand j'ai fait l'introduction de l'entrevue. Je vous ai dit, pour vous donner un exemple de boîte de production télévisuelle, que France Baudouin, c'est elle qui produit avec Pamplemousse sa boîte de production, qui produit en direct de l'univers. Non, c'est Attraction. France anime avec brio en direct de l'univers. Merci d'être là. Écrivez-moi 98985.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.